Eh bien, bonjour, vous êtes à l'Institut des Libertés, une fois de plus. Je retrouve mes deux vieux complices en crime, c'est Hervé Juvin à ma gauche et Xavier Roffer à ma droite. Il n'y a pas d'idée dans le placement, hein, je tiens à le dire tout de suite. Il n'y a pas de rapport entre le placement et leurs opinions politiques, ou moi qui serais au centre. Hein, moi au centre, c'est pas vrai. Et on va vous parler d'un sujet qui est très précis, c'est ce qui se passe quand une région s'organise, émerge de centaines d'années de chaos et commence à bâtir des routes et quand les gens commencent à se relier les uns aux autres, qu'est-ce qui se passe dans les populations, dans le cinéma, dans le système politique, dans les monnaies, etc. Alors, c'est un sujet qui nous passionne tous les trois et je tiens à dire dès le départ que nous n'avons rien préparé. Mais qu'on a des idées assez arrêtées et qu'on va être très surpris par ce que les uns et les autres vont dire. Donc je vais commencer par le côté militaire. Un empire, en principe, ça s'organise, toutes les routes mènent à Rome, on disait. Donc au départ, il y a Rome au milieu, puis il y a des routes qui partent de tous les côtés. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous avez pas de Rome, quand vous avez cinq ou six grandes régions qui se réunissent, vous avez Ankara, vous avez Delhi, vous avez tout ça, il n'y a pas de centre évident à ça. Est-ce qu'un centre émerge automatiquement ou est-ce qu'on va avoir un système complètement décentralisé?
Ni l'un ni l'autre.
Tiens, on aura, ça commence bien.
On aura des corridors, c'est-à-dire des voies multimodales avec des chemins de fer à grand gabarit, avec des liaisons maritimes entre tout ça, qui vont mailler absolument toute l'Eurasie et les alentours. Le maillage en question n'aura ni centre ni périphérie. En gros, dans sa plus grande dimension, du fin fond de la Chine, c'est-à-dire près de la mer de glace, jusqu'à Brest en France, ça sera dans la dimension ouest. Est-Ouest, ce sera le Belt and Road des Chinois. Du nord au sud, ça sera le corridor nord-sud des Russes qui partira en gros de Mourmansk et qui descendra jusqu'à la mer Rouge. Et avec des adjonctions qui seront pour l'essentiel contrôlées par les Pakistanais, par les Turcs et par les Turcs et par les Iraniens, bien entendu, le plus important. Et tout ça va faire un maillage et qui va déboucher sur, parce que là, ce qu'on est en train de faire, c'est de la géopolitique,
hein. Mais
c'est
absolument.
Ça, c'est-à-dire le pouvoir sur des grands espaces à l'échelle continentale
et à l'échelle géographique.
Et voilà, et à l'échelle de continents entiers. On n'est pas en train de mégoter sur des petits pois ou sur des trombones, on regarde les grands espaces et les grands mouvements. Donc les flux essentiels qui seront économiques, il y aura des biens qui circuleront, plus des biens matériels de l'Est vers l'Ouest et plus des biens immatériels de chez nous vers là-bas et du Nord au Sud. Et tout ça est en train d'être organisé de façon absolument hallucinante avec deux grands pôles. On le voit d'ores et déjà, on a fait des cartes, hein, on est en train de s'intéresser. Chaque fois qu'on nous dit qu'on est en train de percer une voie de chemin de fer ou un canal ou quoi que ce soit, on s'y intéresse. Et pourquoi des criminologues s'intéressent à ça? Parce que les voies du négoce d'aujourd'hui sont les voies de l'illicite du lendemain. C'est-à-dire que là où passe le gros du commerce, comme aujourd'hui la drogue dans les conteneurs entre l'Amérique latine, etc., c'est aussi la voie de l'illicite. Donc, comme nous aimons bien anticiper, la voie du commerce licite de 2030, c'est-à-dire ce que je suis en train de vous dire, ce immense maillage à l'échelle de deux ou trois continents, et en tout cas de toute l'Eurasie, sera, des années après, la voie par laquelle secrètement passera la drogue, les armes, les clandestins, la prostitution et tout le reste. Et voilà, c'est ça donc qui est en train de se passer.
Alors,
je voudrais ajouter quelque chose, c'est très important. On ne le dit jamais. Hervé, naturellement, vous êtes le pater familias, c'est vous qui dirigez tout ça. Donc le problème ne se pose pas pour vous, mais des experts, en tout cas comme moi-même, et j'imagine comme Hervé, quand on est en train de raconter tout ça, Nous parlons sans intention ultérieure. Nous ne le faisons pas parce que ça fait plaisir à X ou la peine à Y. Nous le faisons parce que nous pensons que c'est vrai et que nous pensons que c'est en train d'arriver et que nous pensons que ça va avoir un rôle important. Et surtout, Hervé avec son expérience et moi avec la mienne, nous sommes en mesure de l'établir. On peut vous dire, mais regardez sur la carte, alors on a fait un travail, là ça donne ceci, là ça donne cela. C'est important à savoir, et de ce fait, les critiques, parce qu'à l'heure actuelle, il y a énormément dans la sphère médiatique de dénigrement, de disqualification, etc. Nous ne faisons que des critiques positives, c'est-à-dire que les critiques que nous faisons, en disant, mais enfin bonsoir, regardez ce que vous avez sous les yeux, visent à améliorer les choses, visent à des prises de conscience. Je crois que c'était important de le dire et qu'il fallait le faire.
Je vais me permettre de faire une intervention ici avant de passer la parole à Hervé. J'ai exactement la même impression. Moi, ce que j'essaie de faire dans le monde de l'économie et de la finance, c'est d'établir les faits. Puis ensuite, une fois qu'on a établi les faits, on peut commencer à discuter comment on va s'adapter, etc. Mais aujourd'hui, quand je parle de faits à des gens, la réaction que j'ai à peu près partout, on me dit « vous êtes de droite ». Parce qu'aujourd'hui, parler de la réalité, c'est être de droite.
Bien sûr.
Et vivre dans le rêve, je ne sais pas ce que c'est, mais enfin vraiment, je ne sais pas si c'est de gauche ou si c'est pas, je sais pas. Et donc, il y a quand même un effort immense de la part de nos élites pour ne plus considérer la réalité et considérer leurs désirs et leurs rêves comme la réalité. Et ça me laisse pantois.
Oui, oui, d'une part. Et puis deuxièmement, le dénigrement, alors il y aurait...
Donc quelqu'un qui parle de la réalité,
oui, oui, il y a un cordon sanitaire, alors on va protéger les gens qui sont derrière et ceux qui sont devant sont forcément des salauds. Et donc c'est ça, voilà, dans leur petit monde. Mais naturellement, ça, c'est Byzance vers 1450, ça ne dure jamais très longtemps.
Non, ça ne dure jamais très longtemps. Maintenant, je me tourne vers celui qui... peut-être un peu malgré lui, a fait de la politique à un petit moment dans sa vie, là, pendant 5-6 ans, là, vous avez été traîné vos guêtres à Bruxelles.
Il faut tout essayer dans la vie.
Je sais bien, il faut tout essayer dans la vie. Et donc, est-ce que la description que lui et moi faisons de cette espèce de désir de ne pas vivre dans la réalité correspond à votre expérience des 5 ou 6 dernières années ou...
Alors, je vais revenir certainement à votre première question. Il se trouve que j'ai commandé un rapport au Parlement européen sur l'océan Indien, et j'aimerais en dire quelques mots ensuite.
Bien sûr.
Mais ce qui vient d'être évoqué me paraît très très important. Les médias sont un peu fait l'écho de ce qui serait une crise ou une faillite du renseignement. Moi, je vois 3 raisons très proches de ce que vous venez de dire. Il y a un déni du réel. Quand le réel ne cadre pas avec ce qu'il devrait être, c'est-à-dire quand les nouvelles sont mauvaises, ben, il vaut mieux nier le réel et dire que tout continue à se passer comme ça devrait se passer. Je ne résiste pas à prendre l'exemple de ce qui se passe en Ukraine actuellement. Je n'ai pas à prendre position soit pour la Russie, soit pour l'Ukraine envahie par des troupes russes. Mais il est clair que nous avons vu un déni formidable de réalité. Les Russes n'ont pas d'armes, n'ont plus de puces, ne savent pas se battre, et d'ailleurs leur armée est en train de disparaître. C'est pas exactement ce qui se passe sur le terrain. Mais pendant 2 ans, nous avons une suite de récits formidables qui sont tout simplement un déni de la réalité. Alors j'ai vu un événement assez grave.
Et c'était fait par des généraux en plus.
Ça a été fait notamment avec le concours de soi-disant experts militaires. J'en ai un autre exemple, c'est celui du Sahel, et ça serait mon second point. Quand des experts qui connaissent la situation, qui vivent au Mali, au Burkina, au Niger, ont essayé d'alerter parce que des choses se passaient qui n'allaient pas dans le sens du récit officiel, notamment celui que les multiples organisations payées par l'Union européenne allaient évidemment finir avec le soi-disant terrorisme au Mali et rétablir la paix. Ceux qui faisaient des notes en sens inverse se voyaient dire « mais attends, pour ta carrière, c'est très mauvais, ça n'est pas ce qui est conforme à ce que pensent les dirigeants, et donc ta note, tu te la gardes ». Rien ne peut passer qui ne soit pas conforme à l'idéologie des dirigeants. Ça veut dire que ça ne peut plus marcher. Et puis le dernier point, c'est le savoir de la peau, comme le dit mon ami Gérard Chalian. Le savoir de la peau, c'est frotter sa peau à la dure peau du monde. Ça, l'illusion du renseignement à distance, l'illusion de tout est disponible en source ouverte ou moins ouverte sur Internet, ça tue le savoir de la peau. Et je pense que dans un certain nombre de situations, il faut avoir le savoir de la peau. Alors ça me ramène à l'océan Indien et à votre sujet, Charles. J'aurais un point de vue un peu différent de Xavier Hofer sur ce sujet-là. Je me demande si l'océan Indien ne va pas être dans la prochaine décennie ce qu'a été la Méditerranée. Oui. Et je le dis parce que je viens de constater que l'Inde vient d'afficher une croissance supérieure à 8%, tout près de 8,5%. C'est la croissance la plus forte de tous les grands pays dans le monde et c'est une croissance durable qui devrait assurer à Narendra Modi sa réélection. J'observe les découvertes sans cesse accrue de ressources naturelles dans l'Est de l'Afrique. On vient de nouveau de savoir qu'au Cabo Delgado, au Mozambique, on vient de nouveau de découvrir qu'en Tanzanie, on a des formidables ressources naturelles d'énergie, pas seulement, métaux rares et terres rares, à peu près totalement inexploitées à ce jour. Et nous savons bien que plus au nord, du côté de la péninsule arabique, on a de formidables capacités d'investissement. Alors si je reviens un peu en arrière dans l'histoire, il y a eu un moment où l'océan Indien était une Méditerranée de tous les trafics et de tous les commerces. C'est quand l'océan Indien était sillonné par les boutres arabes qui partaient de Djibouti, qui partaient de Zanzibar, qui allaient sur la côte des Malabar, sur la côte indienne, et on avait une intense activité commerciale entre Oman, ce qui est maintenant l'Arabie Saoudite, l'Inde, l'Afrique de l'Est. Les Portugais ont cassé cela. L'arrivée de Vasco de Gama, puis d'Albuquerque au XVIe siècle, a détruit le commerce musulman et les Portugais ont pratiquement acquis le monopole sur le trafic des épices. Et on a un peu oublié l'océan Indien. Pour différentes raisons, on s'est concentré sur la Chine, on s'est concentré sur l'Atlantique. Je pense que la Mare Nostrum de la décennie à venir, c'est l'océan Indien. On a à la fois la population active et formée la plus nombreuse du monde. La Chine est vieillissante. Sa main-d'œuvre va diminuer en nombre. On a une main-d'œuvre formée à cause des Indian Institute of Technology d'exceptionnelle qualité en Inde et aussi, on ne le sait pas assez, au Bangladesh. On a des capitaux, notamment de tout le monde de l'Arabie Saoudite, d'Abu Dhabi, du Qatar, etc. Et on a des ressources naturelles et de l'énergie, notamment en Afrique de l'Est. C'est dans ce cadre, me semble-t-il, que les routes et les corridors que vous évoquez prennent tout leur sens. C'est la concurrence entre Gwadar au Pakistan et Chabar en Iran pour décloisonner l'Asie centrale et avoir des flux qui viennent de l'Asie centrale. Seul problème du Pakistan, c'est que l'insécurité due à la rébellion baloutche rend très compliqué le passage du CPEC et j'ai le sentiment que même les Chinois sont en train plus ou moins de se retirer sur la pointe des pieds en raison de l'insécurité ambiante, ce qui laisserait place à des corridors passant par l'Iran. L'intensité des relations entre l'Inde, les Émirats, l'Arabie Saoudite et l'Afrique de l'Est qu'on oublie trop souvent, cette intensité des relations a quoi faire honte aux anciennes puissances colonisatrices. La première communauté d'affaires de Maputo comme la première communauté d'affaires de Dar es Salaam en Tanzanie, ce sont les Indiens. N'oublions pas que Gandhi est né en Afrique du Sud.
Et vous avez des Indiens partout en Afrique.
On a des Indiens partout en Afrique. Et on sait bien que les stades de la Coupe du Monde de football, on sait bien que les immeubles de Dubaï, etc., ont été très essentiellement construits avec une main-d'œuvre indienne, qui de plus en plus monte de niveau, puisqu'un certain nombre de responsables de la sécurité, un certain nombre de responsables des systèmes informatiques, etc., sont indiens. Et donc on a une intensité des relations commerciales, une intensité des mouvements de population, une intensité aussi des échanges de civilisation, parce que tous ces gens-là se parlent depuis 6 ou 8 siècles, qui, me semble-t-il, fait de l'océan Indien la Mare Nostrum, première zone commerciale du monde pour la décennie à venir, première base productive du monde, essentiellement autour du sous-continent indien. Donc c'est peut-être le lieu de tous les enjeux stratégiques et de tous les enjeux d'influence et de pouvoir pour les 10 ans à venir.
Tout ça est parfaitement vrai. Il n'empêche que dans la doctrine géopolitique, le pivot du monde, c'est l'Asie centrale et que le solide est plus stable et plus ferme et plus contrôlable que le liquide. Et c'est la raison pour laquelle ça débouche sur l'océan Indien. L'océan Indien en sera le principal bénéficiaire. Mais le maillage dont je vous parle, les grands corridors qui partent d'Asie et qui vont vers l'Europe, ils ont un seul but à l'heure actuelle, c'est d'étrangler l'Union européenne, qui se conduit pas bien de leur point de vue à eux, en contrôlant le pôle essentiel où débouche tout, qui est une autre mer, qui est la mer Noire. Laquelle, on a une vision modérément réaliste de l'avenir, risque fort de se transformer en un lac moitié russe, moitié turc, avec un condominium entre deux individus dont l'un, M. Poutine, a appelé l'autre mon cher ami Erdogan, ce qui arrive rarement à M. Poutine d'appeler les gens son cher ami quand même. Voilà.
Je me permettrai de vous arrêter, Xavier Hofer. Ce que vous dites n'est pas bien.
Oui.
Parce que vous envisagez que la Russie puisse gagner une guerre qu'elle ne peut pas gagner, notre président nous l'a dit, ce que vous dites n'est pas bien, donc ce que vous dites ne peut pas être vrai.
Alors, sans doute, mais quand même, si on accède à un certain nombre de sources qui ont de bien savoir sur le terrain, on se rend compte que les positions de repli à 3 mois d'échéance de l'armée ukrainienne sont sans doute celles de la future Ukraine de l'Ouest, comme il y avait dans le temps une Allemagne de l'Est et une Allemagne de l'Ouest, et ça laisse mal augurer du contrôle par ce pays résiduel qui peut finir désarmé, n'oublions pas, désarmé de toute arme lourde, hein, c'est en tout cas l'intention de l'envahisseur, de contrôler la mer Noire qui va devenir la mer d'autant plus centrale pour tout l'avenir des 20 prochaines années de l'Union européenne, que Erdogan est en train de doubler sa capacité d'action en creusant le grand canal.
Le
grand canal à l'ouest, le canal de grand gabarit à l'ouest d'Istanbul, qui va jouer pour les décennies à venir un rôle au moins aussi important que le canal de Suez, en bien piteux état à l'heure actuelle, et que le canal de Panama.
Et il le fait parce que comme ça, il sort des accords qui l'empêchaient.
Les accords de Montreux
qui empêchent, qui le forçaient à accepter le passage de bateaux qu'il voulait ou qu'il voulait pas, quoi.
Un mot pour confirmer ce que disait Hervé tout à l'heure. Cette histoire d'incapacité des grands chefs à accepter le réel et à tenir pour une offense personnelle tout ce qu'il contredit n'est pas nouveau. J'ai eu, dans le cadre de la formation permanente, comme étudiant, un officier qui avait joué un rôle important dans le renseignement à Bagdad, avant et pendant l'invasion américaine de 2003. Il était sur place, il a vu les choses arriver. Dès que l'armée américaine est arrivée, dans les semaines qui ont suivi, il dit « Attention, on se prépare une vague de terrorisme comme le monde n'en a jamais vu ». Et il a failli être appelé à Paris et viré, hein, parce qu'on disait, mais comment, mais mission accomplished, enfin, regardez, Bush, il a dit, tout va bien, etc. Et donc, mais qu'est-ce que tu racontes comme sottise? Et cet homme m'a dit, j'ai eu la réflexion affreuse d'être soulagé quand le premier méga-attentat a réduit en poussière l'ambassade des Nations Unies et a tué le diplomate brésilien, d'ailleurs, Vera de Mello, grand ami de la France, grande perte pour nous, qui était à la tête de ça, et qu'à partir de ce moment-là, les attentats n'ont plus arrêté, et que, au bout du compte, même pas une décennie après, l'armée américaine était obligée d'en partir, non pas par souhait, mais parce qu'elle était battue militairement par une campagne terroriste comme l'humanité n'en a jamais vu.
C'est une drôle d'idée d'envahir l'Irak, parce que ça a toujours été pays, historiquement, depuis la nuit des temps, où c'était pas des tendres ni des bienfaiteurs de l'humanité. C'est là qu'il y avait le Babylone et tout ça. Je veux dire, les types, ils se mettent sur la gueule avec énormément d'entrain, donc... Il y a des pays comme ça qui sont assez sauvages. Ça me paraît une drôle d'idée d'aller les voir.
C'est dans ce pays-là que l'imam Hussein, sur lui, pèse et prière, et ses 72 compagnons ont été tués par les vilains sunnites.
Oui. Donc, c'est tout ça, c'est difficile. Donc...
Ce que vous dites, Xavier Zurofer, je voudrais le souligner, parce que ce que vous êtes en train de dire sans le dire, c'est que l'Union européenne, alors qu'on ne sait pas très bien encore qui va gagner la guerre déclenchée en Ukraine par l'opération spéciale russe. Mais on sait déjà qu'il y a un grand perdant, c'est l'Union européenne.
Mais bien sûr.
L'Union européenne est une grande perdante, on en a tous parlé, à cause de la coupure de l'accès à l'énergie à bas prix, qui était une cause essentielle des excédents commerciaux de l'Allemagne, donc de la stabilité de l'euro. Parce que si l'Allemagne est en déficit commerciaux,
c'est
et
fini.
Si l'économie allemande est en récession, je ne donne pas cher de l'euro pour les années qui viennent. Mais on oublie que dans la crise agricole actuelle et dans les manifestations des agriculteurs français, il y a l'invasion de produits ukrainiens à bas prix, sans doute aussi de basse qualité, parce qu'aucune des normes écologiques, environnementales et sanitaires applicables aux produits en France n'est applicable en Ukraine. On a ouvert les vannes. Vous savez que la Pologne a rétabli des contrôles aux frontières et interdit l'accès des céréales et des produits ukrainiens à son sol. En France, si vous achetez un poulet découpé à bas prix, vous avez plus d'une chance sur deux d'acheter un poulet ukrainien. En France, nos agriculteurs sont soumis à une concurrence totalement déloyale des produits ukrainiens. Et donc, l'on voit que le problème n'est pas seulement sur le plan de l'énergie, le problème est aussi sur le plan agroalimentaire et sur le plan de l'agriculteur. Nos agriculteurs sont en train de payer une partie du prix de la guerre que nous livrons sans la livrer en Ukraine.
Mais ce qui est amusant dans cette guerre...
Ça fait de l'Union européenne la perdante absolue de la guerre.
Absolument, mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'en plus, c'est pas comme si c'était des petits paysans ukrainiens qui faisaient des poulets. Je crois que 98% des poulets viennent d'une d'une usine qui est une espèce de monstre où les pauvres bêtes mènent une vie, si j'ose dire, abominable. Donc, c'est un oligarque ukrainien qui fout en l'air à lui tout seul toute la paysannerie française. C'est pas comme s'il y avait les paysans français, ils accepteraient peut-être qu'il y ait, pour sauver des centaines de milliers de paysans ukrainiens, ça serait peut-être bien triste, mais ils feraient peut-être un effort. Mais là, pour un oligarque, il voit pas très bien pourquoi il devrait. Donc, on retrouve le schéma, moi, qui m'inquiète passablement, c'est-à-dire qu'on voit dans ces pays dont on parle, qui émergent des gens d'une richesse colossale, souvent des oligarques, allez, et qui ensuite, utilisant leur puissance, viennent pour essayer, par exemple, d'industrialiser notre agriculture en rachetant nos terres pour une bouchée de pain. Mais pour ça, il faut que les paysans soient d'abord ruinés. Donc moi, c'est ça qui me fait très peur, c'est que je vois qu'il y a une espèce de projet mondial d'arriver à une agriculture industrielle, alors que la France a toujours eu une agriculture artisanale. Et ça me gêne beaucoup. Ça me gêne beaucoup parce que c'est contre tout ce qu'on a toujours fait.
Bien sûr, mais sur cette crise agricole, sur les manifestations des agriculteurs qui ne sont pas finies, il y aura probablement d'autres manifestations, et l'on sait bien qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur les conditions de tenue des Jeux Olympiques, qui à Paris risquent de concentrer tous les dangers. C'est que les agriculteurs que j'ai rencontrés à deux reprises au Salon de l'agriculture, on a voulu tout détourner en disant ils se battent contre les normes écologiques et contre les normes environnementales, ils se battent contre etc. C'est pas ça du tout. La réalité, c'est que les agriculteurs français sont bien conscients qu'ils ont en face d'eux des monstres, qui sont les quatre multinationales qui contrôlent 70% du commerce des denrées alimentaires dans le monde, qui sont un modèle de propriété des sols tel qu'il est en vigueur en Ukraine, où ce sont quelques oligarques américains, complices d'oligarques ukrainiens, des sociétés comme BlackRock et quelques autres, qui sont propriétaires de plus des deux tiers des terres. Il n'y a pas de paysannerie ukrainienne au sens où il y a une paysannerie française encore.
C'est ce que je voulais dire, oui.
Et ils ont tout à fait conscience, nos agriculteurs, que ce qui est fait d'eux, ce sont les faire-valoir et ce sont les prolétaires de l'industrie chimique allemande, des semenciers, et de ceux que j'appelle les usuriers du vivant, parce que c'est ceux qui veulent s'approprier les semences, s'approprier tous les droits sur la vie, qui veulent privatiser la vie. Nous avions eu l'occasion d'en parler.
On avait fait une émission
ici là-dessus. Je pense que c'est contre cela que se battent les agriculteurs français.
Redonnez-nous le nom de ces quatre sociétés-là, si c'est possible.
Vous avez Cargill, vous avez Dreyfus, et puis vous avez deux sociétés américaines. Et ça n'est pas par hasard, si leur intérêt, c'est évidemment de concentrer le plus possible les flux agroalimentaires en ayant tout à fait en amont des industriels, en ayant en aval des grandes surfaces, parce qu'à ce moment-là, tout le pouvoir sur l'alimentation humaine va appartenir à 4, 5, 6 groupes mondiaux. Or, on sait bien, comme selon la formule d'Heinrich Kissinger, quand on veut tenir les États, on tient l'énergie, quand on veut tenir les peuples, on tient l'alimentation. Si 4, 5 multinationales dans le monde tiennent l'alimentation, ils tiennent, j'ai envie de dire, la capacité de se nourrir des populations. Et donc, c'est un pouvoir considérable.
Ils le font chez nous, mais ils vont se heurter en Inde, en Chine et dans un certain nombre de ces pays, quand même, à des pouvoirs politiques robustes qui ne vont pas accepter. Donc,
regardez les manifestations des agriculteurs en Inde en ce moment. Vous avez des millions d'agriculteurs qui manifestent, notamment contre une réforme de la distribution qui ferait que l'Inde commencerait à ouvrir les portes à la grande distribution, ce qu'elle a toujours refusé jusqu'ici. Les agriculteurs sont très inquiets parce que le rapport de force changerait complètement et ils se retrouveraient dans longtemps, parce que la population agricole indienne reste très nombreuse, mais ils ont peur de se retrouver face à un monde industriel qui va détruire par millions les petites exploitations, ce qui est un facteur de déstabilisation sociale considérable. Il est très intéressant qu'on ait des manifestations d'agriculteurs en France au même moment où on a des millions d'agriculteurs qui manifestent en Inde. On est sur un problème mondial.
Alors je voudrais vous poser une question parce qu'il y a quelque chose qui me... Je regarde l'Europe. Bon, vous allez en France et on voit bien que la concentration d'un côté et les grandes surfaces de l'autre a amené une baisse de la qualité des produits et que finalement, il faut se donner du mal pour trouver de la bouffe qui soit bonne, quoi. Et je vais en Italie, j'ai pas l'impression que ça existe. Je me demande s'il y a... J'ai pas vu les grandes surfaces en Italie. J'ai l'impression qu'en Italie, il y a encore une agriculture qui produit ici pour être bouffée là. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est parce que...
Je ne veux pas monopoliser la parole et Xavier Hofer répondra.
Non, mais il est
clair que la France est bien plus américanisée sur le plan de la malbouffe que l'Italie. En Italie, on continue à manger des pâtes, on continue à manger des spécialités locales.
Quelque chose qui vient du coin, oui, c'est ça.
En France, la diffusion, je ne citerai pas les marques pour ne pas leur faire de la publicité, mais la diffusion de la malbouffe à l'américaine. Regardez dans combien de restaurants les burgers ont remplacé les plats traditionnels. Mmh. Et regardez combien de Français vont dans ces chaînes de fast-food. Combien de Français risquent d'être soumis à la nourriture industrielle que défend de manière aberrante quelqu'un qui se prétend écologiste comme Pascal Canfin, qui dit qu'il faut supprimer les troupeaux parce qu'on va remplacer ça par de la viande produite dans des laboratoires. La France est beaucoup plus ouverte à cette américanisation de la nourriture que l'Italie.
Oui, parce que l'Italie, moi, c'est un plaisir quand j'y vais, parce que j'ai l'impression que ce que je bouffe a été fait à 100 mètres de là où je le bouffe, quoi. C'est quand même un plaisir insensé, ça. Donc, je reviens à la même chose, mais... Donc, on va, cette espèce de modèle qu'on a eu de concentration de la richesse de deux côtés, de la distribution et, mettons, de la science de l'autre côté pour coincer et l'État et le consommateur, ça va être un des objets des années qui viennent de ces routes, parce que toutes ces saloperies-là passeront par les routes aussi, comme la criminalité, si j'ose dire.
Bien entendu, bien entendu. Et le fait de ne pas le voir est un des aspects... d'un des problèmes les plus graves qui affectent les sociétés dans lesquelles on vit, problème qui s'aggrave à mesure où l'informatisation des moyens de la numérisation des moyens d'information progresse, qui est l'aveuglement. L'aveuglement, disait Martin Heidegger, c'est pire que la cécité, parce que ça ne consiste pas à avoir perdu la vue, mais à ne pas voir les choses qu'on a devant le nez, simplement parce que son logiciel idéologique vous interdit de les voir.
Vous savez, c'est ce que disait le Christ, ils ont des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre,
voilà.
C'était avant Heidegger. Hein.
Voilà, voilà, voilà. Mais moi j'ai des références plus récentes, je suis un homme moderne. Donc, ce que je veux dire par là... C'est que on est dans un monde où les gens qui nous dirigent, que ce soit en France, que ce soit dans l'Union européenne, et c'est là tout à l'heure que je parlais de critique positive, c'est ma critique positive, ils sont incapables de voir ce qui est en train de se passer sous leur nez. C'est-à-dire que comment imaginer une seule seconde que sur un espace ridicule, une espèce de... Enfin, le mot est terrible, mais c'est un parc d'attractions, ça a la taille du... Non, pas, ça n'a pas la taille d'un parc d'attractions. La bande de Gaza, ça a la taille, vous savez, des espaces protégés qu'il y a en dehors des villes, etc. Voilà, non. Oh, le provocateur. Donc, quelque chose...
Mais c'est la même taille que la Seine-Saint-Denis, à peu près, non?
Ça fait 340 km². La bande de Gaza. Comment a-t-on pu ne pas voir, dans un premier temps, ce qui s'y préparait ? Ce qui s'y préparait, je cite des amis qui sont dans l'observation de ce genre de phénomène, j'espère que ma périphrase sera comprise, en Israël. Ils me disent qu'ils ont envoyé dans les tunnels de la bande de Gaza qu'ils ont récupérés des ingénieurs des bâtiments et des travaux publics. Ce qui a été creusé sous le sol, c'est-à-dire des tunnels qui sont de la taille de ceux du métro français, des tunnels où deux voitures peuvent se croiser, des tunnels sur des dizaines de kilomètres. Ils disent au minimum 5 milliards de dollars de travaux et suffisamment de terre à déplacer. Quand vous creusez un trou, on sait ça depuis le sapeur Camembert, ben il faut faire quelque chose avec la terre qui reste. Alors comment a-t-on pu faire ça sans que nul ne s'en aperçoive? Et après ça, comment a-t-on pu attendre à un moment donné que ça se déclenche? Et que ça se déclenche parce que quand on est en train d'essayer de faire une grande manœuvre d'importance mondiale, les États-Unis... 7 octobre passé, 2023, sont en train de finaliser les accords d'Abraham. Voilà, ce qui va permettre au Moyen-Orient de vivre dans la joie et la bonne humeur en étant copains tous ensemble entre les Israéliens d'un côté et les puissances de la péninsule arabe de l'autre, essentiellement.
Nous, on avait envoyé OSS-117 pour pacifier le Moyen-Orient, mais enfin, on y arrivait après quelques années de plus.
Exactement. Donc là, après OSS-117, on a Joe Biden, un autre grand modèle de lucidité. Et donc, lui, il essaye de lancer ça, et au pire moment pour lui, c'est-à-dire au moment le plus délicat, au moment où jamais il faudrait avoir mobilisé tous ses moyens Quand vous êtes chef de l'État, quand vous êtes chef de la diplomatie, vous convoquez tous les patrons des services en disant « je vais tenter un coup, mais attention à me prévenir si jamais il y a quoi que ce soit. Parce que pendant que je tente le coup en question, je vais être dans un état de grande fragilité. »
Absolument, hein, vulnérabilité.
C'est le type qui fait du patin à glace, quand il est sur les pointes, il n'y a pratiquement rien qui touche le sol, donc c'est là où il suffit de le pousser un peu et puis il tombe. Et donc, le 7 octobre, patatras, au pire moment, ça explose en vol et se déclenche un phénomène qui, au bout de quelques semaines, s'aggrave de manière terrifiante parce que ce qui permet de faire passer une grande partie du commerce mondial, de l'industrie mondiale, c'est-à-dire le détroit de Bab-el-Mandeb et la mer Rouge, plus maintenant les câbles sous-marins, les autoroutes de l'information qui passent fatalement à cet endroit-là. Vous vous rendez compte s'il faut faire passer les câbles depuis l'Asie jusqu'à l'Europe en passant par le cap de Bonne-Espérance et en contournant toute l'Afrique, le bazar que c'est, les coûts immenses que c'est, etc. Et donc tout ça se déclenche à quelques semaines d'intervalle et personne n'a rien vu. Et personne n'a compris la dimension mondiale et géopolitique que ça pouvait avoir. J'ajoute le pire pour l'Union européenne, dont l'aveuglement est sans égal, à savoir qu'il y a deux ou trois pays en Afrique qu'il ne fallait pas perdre parce que c'était le bouchon à l'immigration du continent africain. Hein ? Et c'est ceux-là qu'on a perdus, c'est ceux-là maintenant qui ne jurent plus que par la Russie, et donc qui viennent de rouvrir la porte. Le Niger a rouvert la porte, là, récemment, il y a quelques semaines, avant...
Mais on avait déjà fait sauter avec Sarkozy le bouchon libyen.
Oui, oui.
Et maintenant, on a fait sauter ce qu'il y a derrière.
Et voilà.
Je souscris entièrement à ce que disait Xavier Hofer. Nous savons ce que nous a coûté un certain degré d'hostilité de la part de la Turquie, qui a très bien su manœuvrer les vannes de l'immigration, très facile à ouvrir, puisque les îles grecques touchent pratiquement la côte turque. Nous allons avoir exactement le même problème avec le Sahel, parce qu'auparavant, le Sahel et les pays du Nord-Sahel étaient effectivement une barrière. La barrière naturelle, il faut quand même traverser le désert. Et puis la barrière de régime que je pourrais qualifier de sévère, pas nécessairement accommodant, et quand ils ont vu que quelque chose ne se passe pas sur leur territoire, c'était difficile d'aller contre. C'était notamment la Libye. C'était aussi un certain nombre de pays, vous en avez cité un, le Niger, qui bloquait. Je pense que nous pouvons nous attendre, et assez vite maintenant, dans les mois à venir, je pense que nous pouvons nous attendre à une nouvelle vague migratoire venue du sud de la Méditerranée, tout simplement parce que les vannes ont été ouvertes, tout simplement aussi parce qu'il y a un certain nombre de pays très présents dans la zone, notamment la Turquie, aussi on en parle beaucoup la Russie, mais pas que, qui peuvent très bien avoir envie de jouer sur un second front. Nous ouvrons les vannes, nous fermons les vannes, mais combien vous nous payez? Combien d'avantages vous nous donnez? Et l'Union européenne a une seconde zone de chantage toute désignée.
Et vous vous rendez compte, le chantage en question, le poids électoral qui pèse, encore des immigrés? Et pour qui vous votez dans ces conditions-là quand vous êtes dans l'Europe du Sud? Hein? À votre avis? Eh ben voilà. C'est ça d'avoir affaire à des gens à courte vue. Je parle des dirigeants de l'Union européenne et de la catastrophique Madame von der Leyen.
Je vais essayer de résumer pour nos auditeurs là. Donc, on a quelque chose qui arrive à l'horizon des 30 prochaines années, c'est-à-dire le maillage de la zone de population la plus dense du monde, allez, c'est ça, et qui va tout se passer. Tout ça va avoir besoin d'énergie, mais ils ont déjà l'énergie sur place, il suffit de faire des trous, d'après ce que j'ai compris, mais je crois que c'est assez vrai. Nous, on est là avec une ancienne base qui a une caractéristique, c'est qu'elle n'a pas d'énergie. Et non seulement ça, mais on ne se met pas du tout pour essayer de bénéficier de ce maillage. En fait, j'ai presque l'impression qu'il va se faire contre nous.
Pour l'essentiel, c'est vrai. Oui.
Nous sommes en dehors du jeu.
On est en dehors du jeu. Donc on se met un petit peu dans la position de Venise quand on a découvert l'Atlantique.
Oui, je pense que nous vivons une
très, très bonne réflexion. Oui.
Nous vivons une nouvelle étape. Hubert Védrine le dit très clairement. Le scénario du monde, c'est plus nous qui l'écrivons. Mais je pense qu'il faut ajouter une nouvelle étape. Le scénario du monde s'écrit sans nous. Ça n'est plus seulement que nous ne l'écrivons pas. C'est que d'autres sont en train de l'écrire.
D'autres sont en train de l'écrire, mais j'ai même l'impression qu'il est en train de s'écrire contre nous.
Alors, les empires ne meurent jamais. L'empire maritime, oui, ils se suicident, mais ils peuvent revenir après. L'empire maritime d'Oman, dans la perspective de l'océan Indien, c'est-à-dire de Bombay jusqu'à Zanzibar, est en train de retrouver toute son influence. À Mascate, vous avez autant de gens qui parlent le swahili, qui parlent le perse, hein, voilà, d'une part. Et puis, deuxièmement, tout est en train de se reconstruire dans la région. Il y a des gens qui achètent des aéroports.
Essayons de réfléchir alors pour nos lecteurs. Là, vous avez 25 ans aujourd'hui, vous écoutez ça, vous êtes bien formé en Europe, vous êtes un ingénieur de qualité, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que vous faites ?
Tout de suite, c'est la première chose que j'ai fait. D'abord, c'est le père de famille qui va vous parler.
Oui.
Dès que ça a été possible, dès qu'ils ont eu l'âge de résister à la nourriture un peu abrasive et puis aux conditions, je les ai emmenés en Inde. Voilà, mes enfants étaient 10 fois en Inde. Ils connaissent, j'ai hélas pas pu venir avec eux dans l'endroit au monde qui m'a le plus impressionné, qu'est le Cachemire, parce que c'est encore un peu trop, il y a quand même encore des pyramides de têtes coupées et ces choses-là, donc c'est pas encore trop possible, mais partout ailleurs, oui, à Bombay, dans le Tamil Nadu, dans le Kochi,
Kerala. Quelle a été ma réaction ?
Voilà, et surtout,
quelle
je les ai
amenés
dans l'endroit qui est le plus dépaysant du monde, qui est dans le Tamil Nadu à Madurai, le plus grand temple shivaïte du monde, c'est-à-dire notre culture avant le christianisme. Je les ai amenés à 4000 ans, 5000 ans arrière. Je les ai amenés dans de ce qu'était à Baalbek, si vous voulez. C'est à peu près la même chose. Alors, ça a été curieux. J'ai un fils et une fille. Ma fille poussait un râle d'extase et demain matin, je lui dis « Ma chérie, on part en Inde. » Mon fils, il a un peu plus de mal. C'est-à-dire que c'est un peu trop encore dans la misère, etc. Lui, mais il a conscience de l'importance de cette civilisation. Il la connaît et naturellement, c'est le dépaysement suprême sur la planète. Il n'y en a pas de pareil. Prendre un train pour n'importe où en Inde, à s'arrêter, on risque, enfin c'est moins vrai pour les femmes seules, hein, mais quand on est en famille, on ne risque absolument rien, on se promène, on voit des gens, on rencontre des trucs extraordinaires, c'est beau comme tout, et donc je dirais, si j'étais votre ingénieur de 25 ans, j'irais commencer, ça lui coûtera pas une fortune, je prendrais un billet pour Bombay, le premier train venu, j'irais me promener pour découvrir ce que c'est, que la sensation la plus puissante et la plus forte de l'Asie. Il y a ça encore un peu en Chine, mais moins parce que 50 ans de communisme ont quand même un peu éradiqué
et
tout
Chine,
ça.
La Chine, si j'ose dire, par rapport à celle que j'ai connue il y a 40, 30, 50 ans, elle est propre. Il y a des routes, il y a des hôpitaux, ça ressemble physiquement à une ville de chez nous, si j'ose dire.
Ouais.
Tandis qu'en Inde, c'est vraiment... En Asie, je sais qu'il y a les gens qui aiment la Chine et les gens qui aiment l'Inde. Il y en est rare d'en trouver un qui aime les deux. Mais parce que c'est vraiment deux expériences.
Pour vous donner un dernier point là-dessus, je travaille toujours plus avec une pépite en termes d'intelligence artificielle.
Oui.
On s'est vu ensemble. Voilà. Et donc l'été dernier, à force de m'avoir entendu parler de l'Inde, il y a été passé. Voilà, c'est un homme de 40 ans, hein. Il a pris ses jeans, un sac à dos, il a été se promener 15 jours, il en est revenu, sa vision du monde a été transformée considérablement. Il a pris un choc et il a dit « Ah ouais, la planète c'est ça ». Donc, du temps des États-Unis du 19e siècle, c'était « Go West, young man », et là maintenant c'est « Go to India, young man », et regarde un peu ce qui s'y passe.
Go East.
Go East, alors.
Si je devais répondre à votre question... Deux éléments de réponse. Il faut partir à la redécouverte du monde. Ce que vient de dire Xavier Hofer me paraît essentiel. Frotter sa peau à la rude peau du monde.
Oui.
Et voir que ça n'est pas partout pareil. Voir que la diversité du monde, c'est notre patrimoine commun. Il faut préserver la diversité des cultures et des civilisations, ça me paraît essentiel. Et il faut aller les voir, il faut les connaître, et il faut se balader sac à dos, il faut aller dans des endroits où personne ne va, et là on sent les choses.
Il faut aller à Oman aussi.
À Oman, bien sûr, qui est une plaque tournante.
Oui, 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 c'est génial.
À peu près totalement ignorée des Français, mais tout à fait.
Mais en plus, c'est là où il y a les plus vieilles dates, les dates du monde. C'est Il y a encore des tribus dans les montagnes d'Oman qui s'appellent Al-Hébreï, les Hébreux. Il y a des, les ancêtres, ils sont tous devenus musulmans, mais les ancêtres des tribus juives qui étaient là du temps de la prophétie.
Ah, c'est des tribus perdues.
Oui,
il y en a encore. Ce sont les tribus perdues.
Oui. Alors, ils sont deux. Et donc, c'est des endroits absolument incroyables. Vous avez des aigles dans le ciel, des troupeaux de chameaux sauvages. Rien n'est plus beau que le sultanat d'Oman. Donc, il faut aller dans ces endroits-là. Alors, ça ne coûte pas si cher de ça.
Je continue avant de vendre la parole. C'est qu'il me semble que maintenant, quand on se balade dans ces pays-là, il y a 30 ou 40 ans, quand j'étais jeune, je rencontrais, pour ainsi dire, jamais de Français. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que maintenant, partout où je vais, je trouve des Gaulois qui sont là, justement, sac au dos, etc. Donc, il y a, surtout des garçons d'ailleurs, il y a quand même pas mal de types qui ont une trentaine d'années et qui se disent...
Mais quand on déplore la situation de la France, on oublie une chose, c'est le nombre d'expatriés français que je rencontre un peu partout dans le monde, qui réussissent, qui souvent passent en dessous des radars, puisque vous savez qu'il n'y a aucune obligation de déclaration. Donc il y a des milliers et des milliers et des milliers de Français qui passent l'essentiel de leur vie en Inde, au Brésil, en Argentine, que sais-je encore, et qui n'apparaissent pas sur les radars, mais qui réussissent, qui travaillent, qui sont bien... et qui font des choses. C'était un peu le deuxième élément de ma réponse. Votre jeune de 25 ans, qui s'interroge sur sa vie professionnelle, qui peut-être a envie de créer une entreprise, peut-être il a envie d'innover, il doit aller voir que dans d'autres pays du monde, on a résolu des problèmes qui sont aussi les nôtres, mais avec d'autres manières, et que ça marche aussi bien. Je vais donner un exemple qui est dans mon actualité aujourd'hui, puisque je m'intéresse beaucoup, pour ma région, l'ouest de la France, je m'intéresse beaucoup au développement des engrais, de l'alimentation et aussi de la pharmacie qu'on peut faire à partir des algues. Les algues d'eau de mer, mais aussi les algues d'eau douce qui s'appellent les azolas. C'est les Vietnamiens qui ont découvert ça, notamment en déposant des brevets dans les années 30. Ça permet de remplacer les engrais chimiques. Ça permet de remplacer pour une partie les antibiotiques pour les animaux qui viennent de naître. Ça permet évidemment de rentrer dans l'alimentation humaine. Quand vous allez en Corée du Sud, quand vous allez au Japon, quand vous allez en Chine, vous mangez pratiquement des algues à chaque repas, sous différentes formes, mélangées à de la viande, mélangées à des
pâtes. Dans les soupes.
C'est extrêmement bon et c'est extrêmement nourrissant. C'est avec ça que Gengis Khan a nourri ses chevaux quand ils partaient dans des expositions. Ils avaient des algues séchées, compactées, et ça permet de nourrir les chevaux pendant des semaines et ça donnait de l'autonomie aux troupes. Bref. Chez nous, qu'est-ce qu'on fait ? Les engrais, ça doit être l'industrie chimique allemande. Chez nous, que fait-on ? L'alimentation de plus en plus, ça doit être une alimentation industrielle qui passe par des usines et par les circuits maîtrisés par l'industrie. Ce qui fait qu'en Chine, on utilise 20 millions de tonnes d'algues par an, en France, à peine 20 000, alors que nous avons le second domaine maritime du monde. Je pense que voyager, voir le monde, comment ils font, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils produisent, ça permet, c'est ça qui permet de faire de l'innovation parce qu'on revient chez soi en ayant vu les choses différemment. On revient chez soi avec des manières de faire différentes, avec des modes de faire différents. Et c'est comme ça qu'on peut innover et qu'on peut apporter du neuf. Une des solutions à la crise écologique, très clairement, c'est d'aller voir comment ils font au Vietnam, comment ils font en Chine, comment ils font en Inde. Avec beaucoup moins d'engrais chimiques, beaucoup moins de semences achetées à l'industrie, et ils se débrouillent.
Et en Indonésie aussi, qui est un continent à moitié aquatique.
Bien entendu.
Oui, l'Indonésie, et puis c'est immense l'Indonésie.
Ah, c'est très très
Moi, je regarde avec beaucoup d'intérêt aussi les Philippines, parce qu'il y a des Philippins partout, là aujourd'hui, de partout dans le monde, alors qu'il y a 30 ans, il n'y en avait pas un. Oui. Et on les voit partout en train de pousser les bébés des femmes françaises, là. Eh bien, ils sont 120 millions.
Mais ça sont un peu des, ce sont un peu des trous noirs. C'est comme l'Indonésie. L'Indonésie, premier pays musulman du monde. L'Indonésie va être un géant. C'est comme le quatrième pays le plus peuplé du monde. Et l'Indonésie passe pratiquement au-dessous des radars d'observation française.
Oui, c'est quand même. Mais moi, je serais. Je sais pas. J'irais aux Philippines et je dirais ils forment des infirmières par milliers. On leur donnerait des licences de venir travailler en France pendant 5-6 ans, les infirmières, on règle le problème.
Que dans tous ces pays-là, il n'est pas... Le Vietnam, c'est une autre affaire, hein, mais tous les autres pays malais, les Français sont reçus comme le bon Dieu.
Oui.
Ils nous aiment bien.
Oui. J'étais dans un avion une fois à Hong Kong, il y a très longtemps de ça, et j'allais à Manille. À côté de moi, il y avait des Philippins qui me disent « Mais vous parlez français ? » Le plus beau voyage qu'on ait fait de notre vie, on a été à Versailles, une fois c'était des gens de la bourgeoisie philippine. Je suis arrivé à Philippines, ils m'ont littéralement kidnappé, ils m'ont logé, ils m'ont nourri, ils m'ont promené partout. Mais non, c'est très important, les Français, vous comprenez, la culture Versailles, Louis XIV, machin. Ils savaient tellement de choses sur nous.
Voilà, c'est important ce que vous dites, Xavier, parce que on est plus fier d'être français en dehors des frontières qu'on ne l'est en France.
Et la France est bien plus grande dans les yeux des Indiens, des Indonésiens, des Chinois
aussi. Des Chinois.
Enfants de Xi Jinping qui apprennent le français. Ouais. La France est bien plus grande vue de l'extérieur que vue de nos petites rancœurs, de nos petites bagarres internes.
Il m'est arrivé une chose, une fois, incroyable. Quand on est à Pékin et quand on est proche des gens qui s'occupent, disons, des affaires de sécurité, j'enseigne à l'Académie de la police chinoise, donc on voit assez facilement les grands personnages. Et une fois, on a eu un dîner avec deux collègues, avec le patron du Conseil national de sécurité chinois, qui est un jeune général et qui, ce qui en dit plus que tout le reste sur la Chine, n'est pas chinois. C'est un Mandchou et c'est un descendant direct de l'impératrice, de la dernière impératrice. Voilà. Et donc, il ne parle pas le français, mais il arrive au dîner en question avec son entourage et sa propre interprète. Et là, pendant 10 minutes, il fait un espèce de discours. Ce n'était pas un discours, c'était des propos comme ça. Il avait les larmes aux yeux. Il a dit « C'est le plus beau jour de ma vie, j'ai appris le monde en lisant Les Misérables de Victor Hugo. Ce peuple que vous êtes et le peuple chinois sont les deux seuls vrais, nous sommes les seuls à bien manger et avoir une culture, etc. » Nous, on était abasourdis, on s'attendait qu'il manifeste une certaine sympathie, etc. Mais cet homme-là était sincèrement ému aux larmes. Voilà, les gens du peuple qui avaient été capables d'écrire Les Misérables, dans son cas aussi, en tant que général d'un régime encore vaguement communiste, la Révolution française, etc. Mais on peut tout espérer et tout attendre des contacts avec ces gens-là. Mais
c'est ce que je veux.
Si on ne se comporte pas mal avec eux, je ne parle pas... les pays peuvent avoir des différences diplomatiques ou stratégiques, mais culturelles, on ne devrait pas. Hein. Donc voilà, est-ce tout est possible.
Et on ne devrait pas abandonner notre propre culture.
Mais bien sûr.
On est plus fier de la culture française à l'extérieur qu'on en est fier en France. Commençons par continuer à apprendre, commençons par continuer à transmettre notre propre culture. Anecdote pour anecdote, j'ai eu l'occasion tous les ans pendant longtemps d'aller à l'Institut de diplomatie de Pékin. C'était présidé par l'ancien ambassadeur de Chine en France, ouais. M. Zhao Tintun. Nous allons pour ce séminaire dans une ville qui fait face à la Corée du Nord et il y a, comme toujours, un grand banquet d'accueil. Au cours de ce banquet d'accueil, des toasts sont prononcés et l'ambassadeur dit pour saluer mes amis chinois, délégation sous l'égide du général Éric de la Maisonneuve, il récite un poème en français de Baudelaire. La délégation française très gênée se regarde, comment peut-on répondre ? J'ai la faiblesse d'avoir retenu quelques poèmes en français. Je récite un poème de Verlaine. Stupéfaction, l'ambassadeur se lève, mais je vais répondre par un autre poème et récite aussi un poème de Verlaine, sans note en un français parfait.
Et sans le savoir 2 minutes avant. Hein.
Et là, la délégation française, un peu honteuse, a jugé qu'il valait mieux pas continuer parce qu'on se serait arrêté assez vite. Mais je trouve l'exemple très intéressant. Cet ambassadeur de Chine en France, président de l'Institut de diplomatie de Pékin, connaissait visiblement plus de 10 poèmes français par cœur, était capable de les réciter sans une faute et par surprise, sans avoir préparé. Aucun Français n'était capable de faire la même chose.
Moi, je peux en réciter d'autres.
Et surtout pas en chinois.
Et surtout pas en chinois, non. Mais ce que ça veut dire, c'est important parce que pour les Chinois éduqués, les poèmes, c'était un truc extraordinairement important. Ça fait partie de la culture de la mémoire.
Et la mémoire.
Et donc, la calligraphie là et les poèmes, c'était l'essentiel du domaine des gens très bien élevés qui étaient des
mandarins. Pas uniquement. C'est le socle essentiel de notre civilisation. Souvenons-nous toujours du vers de Friedrich Hölderlin, ce qui demeure, les poètes le fondent.
C'est pas faux.
C'est-à-dire que le roman national, c'est des poèmes.
Les poèmes, c'est ce qu'il y avait. Et donc, ça va être une... C'est-à-dire que si j'essaye encore une fois de résumer, ce qu'on est en train de dire, c'est que du point de vue collectif, on est mal barré en Europe, mais il y a une opportunité absolument extraordinaire qui s'ouvre à tous les jeunes qui peuvent nous écouter du point de vue individuel. C'est-à-dire, ce que j'essaie de dire, c'est vous avez une possibilité de vous enrichir culturellement, de vous enrichir humainement, etc., à condition d'aller là-bas avec vos oreilles et vos yeux grands ouverts, mais n'attendez pas que le gouvernement, les gens en place en Europe, vous aident en quoi que ce soit. Parce que nous, on est très orientés vers une civilisation de la mort. Il faut qu'on meure paisiblement. Le but de ces gens-là, c'est qu'on disparaisse de l'histoire. Quoi. Les pays ne les intéressent plus, l'histoire ne les intéresse plus.
La grande illusion au sein de l'Union européenne, c'est que le droit en finit avec le politique. Et c'est qu'une relative prospérité en finit avec l'histoire. Mmh. Et je pense que ce qui est très important quand on part à la redécouverte du monde, c'est qu'on voit que l'histoire continue à se faire. L'Inde fait son histoire, la Chine fait son histoire, la Russie fait son histoire. Les pays africains avec qui j'ai passé une journée passionnante ici et hier font leur histoire. Et nous, on rêve d'être en dehors de l'histoire. Il faut sortir de France, il faut sortir de l'Union européenne pour voir que l'histoire continue à se faire et peut-être pour en être partie prenante.
Pour en être partie prenante et pour avoir une vie intéressante parce que une vie... Bon, c'est la vieille blague chinoise, puissiez-vous vivre dans des temps intéressants, parce que c'est une malédiction, mais en même temps, vivre dans des temps où il ne se passe rien, ça doit être horrible, non? Je sais pas, et d'avoir été un bourgeois de 1830 à 1860, ça doit être un peu embêtant, quoi.
Le grand problème, c'est quand vous ne voulez pas vous occuper de l'histoire, c'est l'histoire qui s'occupe de vous.
Elle vous rattrape.
C'est ce en quoi est en train de s'enliser l'Union européenne.
Oui, elle se rattrape.
Et donc, dernier conseil aux jeunes gens.
Oui.
Auquel, mais fort justement et fort généreusement, vous pensiez, sortez de la sous-culture sclérosée des écoles de commerce et du franglais. Allez dans le monde.
Je suis d'accord avec vous un point. Je leur ai dit, moi, il y a des jeunes qui viennent me voir, ils me disent, qu'est-ce que je dois faire? Je leur ai dit, écoute, tu fais pas d'école de commerce, tu fais pas tourner des tableaux Excel, hein, tu vas faire Saint-Cyr, et là, t'apprendras des trucs intéressants et qui te serviront dans la vie. Non, mais je veux dire, par là, c'est... Quand j'ai fait mes études, moi, j'étais le seul de ma génération à aller dans la finance. Il n'y en avait personne d'autre. Aujourd'hui, tous les enfants de mes amis sont dans la finance et font du merchant banking ou j'en sais rien. Ils font tourner des tableaux Excel, ils travaillent 12 heures par jour et je ne vois pas la valeur ajoutée qu'ils créent. Donc, les gars, partez au hasard.
Voilà.
Partez à la redécouverte du monde.
Partez au hasard, partez à la redécouverte du monde. Et les routes vont s'ouvrir devant vous, parce qu'il va y avoir de plus en plus de routes. C'était le but de notre début.
Exactement. Et apprenez à vivre dangereusement.
Apprenez à vivre dangereusement. Et ça me paraît une excellente conclusion, parce que rien n'est pire dans la vie que de s'ennuyer.
Puis surtout, d'être... Dans le coton, il se passe rien, on risque rien, on attend de mourir, Berck,
oui. Ça arrivera toujours assez tôt, hein.
Ouais.
Ben voilà, je voulais vous remercier tous les deux d'être venus, parce que je crois que c'est un message important, c'est qu'on est en train de dire l'Europe se ferme, s'éteint, c'est comme une grande lumière qui s'éteint petit à petit, bon, c'est le feu qui tombe. Mais cette lumière que l'Europe a créée, c'est-à-dire cette capacité d'aller voir les autres, s'est allumée partout. Donc nous, on s'éteint, mais la lumière qu'on a allumée, elle est partout. Allez-y, les gars.
Oui. Allez voir.
Allez voir. Vous verrez qu'il y a des feux d'artifice vachement rigolos. Voilà, ça me paraît quand même un...
Allumez le feu.
Allumez le feu, voilà. Ben, merci beaucoup, je vous remercie. C'était un peu différent des deux précédents.
Oui, et surtout totalement spontané.
On n'avait rien préparé.
Non.
Mais il y avait du contenu. Nous sommes en train de redécouvrir ensemble ce qui était un des plus grands arts français, qui n'est ni la peinture ni la musique, c'est l'art de la conversation.
Voilà.
La merveille de la France du 18e, et on l'a dit, les Lumières n'auraient pas été ce qu'elles ont été régnées sur le monde s'il n'y avait pas eu l'art français de la conversation. Je pense que nous sommes en train de réinventer, autour de vous Charles Gave, avec vous Xavier Hofer, nous sommes en train de réinventer l'art français de la conversation. Je pense que nous en avons très besoin.
Tout à fait. Merci beaucoup, messieurs.
La messe est dite.